Merci à Jérôme Alexandre. Merci à tout le monde d'être là. J'ajoute quelque chose à ce qu'il a appelé la différence. C'est en fonction du texte extraordinaire de Bataille, Georges, sur Manet, où il est question de la différence suprême. La différence suprême n'a rien à voir avec la différence. Ça veut dire qu'on est attentif à tout et qu'on note tout, mais que tout cela se résout dans une indifférence suprême, le mot est de Bataille. L'indifférence suprême, c'est quoi? C'est l'indifférence qui ne se rend même pas compte qu'elle est scandaleuse. Le cas de Manet, là, nous intéresse beaucoup, à mon avis, de façon historique et politique, à savoir qu'il ne se rendait pas compte, en tant que pratiquant une indifférence suprême, c'est-à-dire celle qui ne sait même pas qu'elle va faire scandale, donc une innocente, qu'elle faisait scandale. Donc, c'est une partie à jouer qui n'est pas encore entamée. Manet est encore à venir. Il est là, pas vu, en embuscade, dans le malheur et l'obscurité fondamentale de la France et du peuple français. Mon intervention est tout à fait politique. Vous allez voir pourquoi elle est politique. Elle est bien bonne, celle-là. Vous allez voir petit à petit pourquoi Manet, fervent républicain, absolument révulsé par les massacres de la Commune de Paris, qui a dit, parce qu'il y croyait, vive la République, vive l'amnistie, débouche sur l'incroyable filiation directe, génétique, plastique, esthétique, historique et politique sur Picasso, dont je n'ai pas besoin de vous dire qu'il a fait de la politique en peinture, en transformant les métamorphoses qui avaient déjà eu lieu. Je suis heureux de parler le 23 janvier, pour quelle raison? C'est qu'il y a eu deux génies français nés le 23 janvier, et qui sont ici ce soir, si je les convoque, c'est Stendhal et c'est Manet. Vous avez ici deux représentants qui nous manquent beaucoup par les temps obscurs qui courent. Donc, vous allez bientôt voir un film réalisé par mes amis et camarades Jean-Guy Kagalabov et Sophie Zhang. Qu'est-ce que nous avons voulu faire? J'étais en train, là où j'étais, en été, d'écrire ce roman qui s'appelle L'éclaircie. Et ils sont venus, et nous avons improvisé sur place, pendant que j'étais en train d'écrire ce livre. Donc vous avez, en quelque sorte, le roman du roman en train de s'écrire. Qu'est-ce que j'étais en train d'essayer de montrer? Que ces peintres, Manet, Picasso reprenant Manet, étaient des romanciers de génie, que leur peinture, en dehors de leur biographie et de leur vie et de l'histoire dans laquelle ils vivaient, cette histoire invivable, étaient des éclaircies. Des éclaircies en temps d'obscurité. In dark times, comme dit Hannah Arendt, men In dark times, ça veut dire traduire en français par vie politique, de façon qui efface l'obscurité. Nous sommes dans des temps de plus en plus obscurs. Ai-je besoin de développer? Je pense que non. Ai-je besoin de dire qu'il est absolument déraisonnable? Bien que vous ayez eu aujourd'hui quelques petites éclaircies dans le ciel, au sens climatique du terme. Est-ce qu'il est raisonnable de proposer autre chose que cet obscurcissement et cette décomposition à laquelle nous assistons dans ce pays? Mon intervention et le film est donc à la fois considérablement esthétique, mais a aussi une sensibilité politique. Vous allez voir un film que mes amis ici présents ont réalisé cet été et qui a ensuite été travaillé plan par plan d'une façon extraordinairement minutieuse, où vous allez retrouver quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire qu'on n'approche pas la peinture comme une image filmique, photographiable, mais qu'on l'aborde de l'intérieur d'une façon intense et impliquée, personnelle et subjective, et historiquement située. Vous allez donc avoir un film où il y aura une improvisation de l'auteur qui écrivait à ce moment-là ce roman qui s'appelle Éclaircie, mais vous aurez aussi un montage tout à fait extraordinaire auquel nous avons travaillé, Jordi Kagalabov et moi, pendant des mois, pour savoir quelle représentation de la peinture, quelle image pouvait correspondre à quelle autre image. Bon, tout simplement parce que la peinture n'est pas une image. Ce n'est pas une main. Il faut s'en approcher. Nous allons, tout à l'heure, nous en approcher par divers moyens qui seront la parole, la musique, la photographie, très importante pour ce qui concerne Picasso, et par le fait que l'œil doit écouter. Nous allons essayer de vous faire sentir ça. Que l'œil écoute. C'est la convocation des cinq sens, car vous assistez aujourd'hui à l'évacuation des corps et à l'oblitération de la perception et des sensations. Nous allons vous proposer quelque chose, vous allez voir, où les cinq sens sont convoqués pour vous appeler à comprendre que vous êtes désormais assigné à une évacuation de vos sensations et de vos cinq sens. Vous allez voir dans ce film tout à coup apparaître deux citations, ou plutôt trois. La première, parce qu'elle désigne ce qui sera plus tard désigné comme révolution vraie, la vraie Révolution française, la première qui, je pense, se compose et se prouve dans le montage plan par plan, plan par plan, et de l'autre amont dans Poésie. Qui peut ici dire, et il devra le prouver, qu'il a lu réellement les poésies de l'autre amont? Eh bien, je dis personne. Donc, vous allez lire tout à coup la phrase suivante qui sera écrite sur l'écran. Dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. Je répète, dans la nouvelle science, chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez le film, chaque chose vient à son tour. étaler son excellence. C'est donc une science. Mais dans la vie, est-ce que vous avez l'impression, oui ou non, de vivre de telle façon que chaque chose vient à son tour et que telle est son excellence? Aucune chose ne vient à son tour, c'est la bouillie, le désordre, la vocifération et le n'importe quoi. En revanche, on peut éventuellement vivre, comme les artistes que nous allons convoquer, comme si chaque chose venait à son tour. Telle est son excellence. Voilà. La deuxième phrase que vous allez dire, je m'arrête un peu parce que vous allez voir ça apparaître sur l'écran, mais la lecture dure quelques instants, vous ne retiendrez peut-être pas ce qui est dit, il faut insister sur la pensée qui s'exprime, c'est celle de Rimbaud Arthur, qui dans Illumination, la première est donc de l'autre amant, Isidore du Gard, Poésie, que vous n'avez pas lu. Et la deuxième, dans Rimbaud, qui est très célèbre, vous avez tout lu de Rimbaud, mais vous n'avez pas lu les Illuminations non plus. Donc, c'est une façon de vous rafraîchir l'absence de mémoire. Donc, la deuxième citation est « Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. » Je répète. Je suis, bon, il faut quand même écrire ça un jour ou l'autre, hein. Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé. Un musicien même qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. Vous voyez bien que je suis en train de rassembler un certain nombre de termes qui vous paraîtront peut-être bizarrement associés, mais qui me paraissent considérables dans l'art de vivre, à savoir la science, la musique et l'amour. Tout cela donnant accès à ce que Rimbaud appelle une nouvelle raison. Cette nouvelle raison, personne ne s'en préoccupe. Vous avez beau être fixé, scotché à votre histoire d'argent, vous êtes au maximum du lointain de ce qui se joue de façon que je n'hésite pas à dire métaphysique dans toute cette affaire. Pourquoi ce sont des peintres ou des écrivains ou des poètes qui vous ont appelé à une vigilance spéciale sur le temps, sur la façon de vivre, sur la musique et sur l'amour? La troisième phrase que vous allez voir en exergue est de Heidegger. Dans son Parménide, écrit en 1942-1943, que je vous demande de vous procurer parce que c'est un livre étourdissant. La phrase est la suivante. Les dieux sont ceux qui regardent vers l'intérieur dans l'éclaircie de ce qui vient en présence. Je répète, les dieux sont ceux qui regardent vers l'intérieur dans l'éclaircie de ce qui vient en présence. Le Parménide de Heidegger est écrit dans les années 1942-1943, c'est-à-dire au cœur même du délire. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis là, en exergue. Tout simplement parce que c'est le moment où Heidegger, penseur qu'il faut éradiquer, à ce moment-là, il faut éradiquer aussi Hannah Arendt et ces Men in Dark Times, les hommes dans les temps obscurs, qui tiennent le coup dans les temps obscurs. Voilà. Eh bien, là, vous avez quelque chose qui a été tellement falsifié par l'appellation de paganisme, qui ne veut strictement rien dire, qui est une honte de la pensée et du bavardage métaphysique ou pseudo-théologique. Vous avez affaire à la question directe des dieux grecs. Où sont-ils passés? Ils ont disparu, nous sommes d'accord. Bon, ils ne sont pas là. Ah bon? Et pourtant, peut-être qu'ils seraient là, sans qu'on s'en doute, mon roman est fait pour le faire sentir. Qu'est-ce que c'est qu'un dieu grec? Oh, ce n'est pas du tout un dieu qui vous dit la loi. Ce n'est pas du tout un dieu qui vous donne une injonction. Ce n'est pas un dieu qui vous prescrit quoi que ce soit. C'est un dieu qui vous laisse absolument libre d'entendre ou de percevoir, quoi. Qu'il vous fait signe, qu'il est furtif, qu'il n'est pas là aussitôt qu'il a été là. C'est ça, un dieu grec. Et un dieu grec, ça peut culminer, en effet, dans sa splendide démonstration. La déesse vérité, elle était là, en grec. La déesse vérité. Non pas la déesse de la vérité, mais la déesse vérité elle-même. Ou, si vous suivez Parménide, un homme conduit héroïquement, s'il faut cavaler, jusqu'au bout de son désir, il faut arriver jusqu'à cette déesse vérité qui accueille l'aventurier héroïque. Comme son Manet et Picasso, je vais le démontrer tout de suite, et le film le démontrera, l'accueille de façon bienveillante. Comme nous en sommes loin, comme nous sommes perdus, loin de cette éclaircie. Les dieux, les donc aussi, hein, comme dans l'Odyssée, Ulysse, s'aperçoit, parce que oui, une hirondelle, il reconnaît le dieu c'est la déesse, c'est Athéna qui le protège. Voilà. Les dieux sont ceux qui regardent vers l'intérieur dans l'éclaircie de ce qui vient en présence. L'autre amont, Rabot et Manet, ça n'a, que je sache, jamais été souligné, sont strictement contemporains dans l'histoire. À Paris, ils auraient pu éventuellement se rencontrer. Manet est là depuis déjà un certain temps. Il est insulté tous les jours. Tout le monde vient cracher sur ses tableaux. Le déjeuner sur l'herbe, que vous verrez tout à l'heure, qui vous paraît tellement admis, mais qui ne l'est pas du tout. Et donc, ils étaient tous les trois contemporains, ils ont pu se rencontrer à Paris. En époque révolutionnaire, Manet, à part son extrême répulsion pour les massacres de la Commune de Paris, on connaît très bien ses positions politiques, parce que tout ça est très politique. Vive la République, vive l'amnistie, croyez à la République. Qui croira à la République de cette façon fera l'élection prochaine, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans un roman qui nous permettrait, grâce à mes amis, d'approcher ce que ces artistes ont fait. Bien entendu, il faudrait que vous essayiez de vous familiariser avec le fait que l'œil écoute, comme a dit quelqu'un, Claudel, en l'occurrence. Il n'a pas assez écouté, d'ailleurs, sauf la poésie, la peinture hollandaise. Il aurait pu écouter, et il aurait pu... Ah, oui, enfin bref, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais L'œil écoute, ça veut dire qu'on essaye d'écouter intensément la peinture. Allez-vous. Et puis, vous vous familiarisez, parce que vous voulez récupérer votre corps, c'est-à-dire vos cinq sens, dont vous ne savez plus où ils sont passés, sauf dans des brèves saccades. Des brèves saccades, où votre corps se rappelle à vous, par des histoires de tripotage, ou d'angoisse, ou d'horreur, ouais, vous savez plus où est votre corps. Alors, l'oreille vous voit, figurez-vous, l'oreille vous voit, l'œil écoute et l'oreille vous voit. Et vous verrez comment la musique dans ce film, nous avons beaucoup travaillé là-dessus. La musique se déclare, et vous allez voir aussi comment, pour essayer d'approcher cette question du toucher, parce qu'on ne peut pas faire sentir le toucher dans un film. Comme l'a dit Picasso, l'intelligence éclate dans chaque touche de Manet. Ah, alors, on va essayer d'en donner une certaine approximation, et donc la parole est là, en même temps que l'œil, l'oreille, pour rythmer et raconter ce qui se passe, parce qu'il s'agit de romans. Et ces romans ont trait à la biographie précise des peintres en question. Et c'est pour cela que vous verrez pour la première fois, à mon avis, des photographies de la sœur de Picasso, des deux sœurs de Picasso, puisque ce livre, l'éclaircie, est fondé entièrement sur cette enfance et ses relations avec une sœur. Allons vite, vous savez, le poème par cœur, les vers paradis des amours enfantines de Baudelaire. Oui, les vers paradis des amours enfantines, vous savez ce que c'est, bien sûr, vous savez ce que c'est. Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, les violons, vous allez voir, ils vont devenir autre chose sous vos yeux, attention. Les violons vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Je répète. Mais le vert paradis des abeaux enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Les violons vibrant derrière les collines avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Vous voyez bien où on est là, dans des bacchanales extraordinairement suspecte, où les dieux grecs sont dans les buissons, ne vous récriez pas, c'est pas grave, c'est l'enfance, au cas où vous l'auriez gardé en vous. S'il n'est pas sûr, puisque les adultes sont des enfants ratés. Donc, avec la musique, vous entendrez à la clarinette le quintet de Mozart, qui est un signal d'un de mes autres livres. Vous entendrez brusquement, pour que la peinture des instruments comme la guitare ou la mandoline, vous entendrez Vivaldi, un concerto pour luth. Vous entendrez aussi au piano Haydn. Pourquoi? Parce que Manet, dont la femme était une extraordinaire musicienne, très douée, Manet lui demandait, en rentrant chez lui le soir, après sa vie assez agitée dans l'atelier, voilà quelqu'un de très organisé, Manet. Il y a l'atelier, vous verrez, il y a les modèles, et le soir il rentre chez lui, sa femme est pianiste, je veux dire musicienne, elle sait jouer du piano, et il lui demande toujours de lui jouer de Haydn, ce qui pour l'époque est extraordinairement bizarre. L'époque est à Wagner, à Schumann, à Beethoven. Non, Suzanne, elle s'appelle. Ah, il rentre épuisé par son atelier et il lui dit, joue-moi du Haydn. Mais enfin, Edouard, tu exagères, il n'y a pas que ça comme musique. Eh bien si, la 52e, s'il te plaît. Avec ce roman, qu'est-ce qu'on évite? Le réalisme social, bien entendu. la psychologie, l'obsession sexuelle, bien entendu. La dévastation morbide qui est partout, bien entendu. Et c'est une modeste proposition pour que vous récupériez, si vous le pouvez, votre corps d'enfance, votre vert paradis. Vous verrez comment l'Espagne intervient là. Oh, l'Espagne oubliée chez Manet et chez Picasso. Il s'agit, et mes amis vont envoyer ce que nous avons travaillé, que nous vous présentons modestement, qui a été tourné l'été dernier pendant que j'écrivais ce roman et qui a été ensuite remédité plan par plan, son par son, pour qu'on puisse arriver, à ce que dit encore Heidegger de façon magistrale, à l'espace libre pour le jeu du temps. Par conséquent, merci de votre attention. Et voilà de quoi il s'agit.